le journal des auditeurs sur Africa numéro 1 avec Eugénie Dieki.
Depuis dimanche dernier à Johannesburg, des responsables de 26 pays africains sont réunis pour examiner les voies et moyens de créer un immense marché commun allant du Cap au Caire. Un tel marché commun est-il possible? Quels sont les obstacles qu'il faudra franchir pour y arriver? Nous aurons la réponse du professeur Ivekwe Amaizo, consultant international, économiste et essayiste. Et puis voilà un an que la Belgique n'a pas de gouvernement réel. Mercredi, elle a passé le cap des 365 jours écoulés depuis les élections législatives du 13 juin 2010. Qui s'était soldé par le score historique de la nouvelle alliance flamande. Le cabinet sortant et démissionnaire d'Yves Leterme continue pourtant à gérer les affaires courantes et curieusement, le pays ne semble pas s'en porter plus mal. Nous aurons donc des éclaircissements avec nos invités Anissé Mobé, analyste politique, et Dieudonné Kabongo, comédien et journaliste.
D'accord, pas d'accord, participez au JDA pour faire bouger les choses.
Oui, bonjour amis du JDA.
Oui, bonjour, je m'appelle Djibril et
bonjour Richard, bonjour Eugénie.
Informer sans déformer, juger sans passion, le journal des auditeurs pour faire bouger l'Afrique.
Anissé Mobé, bonjour.
Bonjour.
Dieudonné Kabongo, bonjour à vous également.
Bonjour madame.
Alors je vais commencer par vous Anissé Mobé. Aucun gouvernement n'a pu être désigné dans le Royaume belge depuis un an. La crise politique accentue les divisions entre Flamands et Wallons. Alors expliquez-nous quelle est l'origine de cette crise et pourquoi entre Flamands et Wallons, Anissé Mobé.
Mais bien malin qui pourrait donner des explications à cette crise. Hein.
Oui.
En tout cas, elle relève à la fois du conjoncturel, c'est-à-dire le temps court, et aussi du long cours, parce qu'on ne peut pas comprendre cette crise si on ne la contextualise pas donc dans l'histoire de la Belgique. Et puisque vous posez la question, moi qui suis Congolais,
oui,
mais permettez-moi de vous dire que en 1960, le Congo a été privé de gouvernement. Nous avons attendu après l'assassinat du Premier ministre Lumumba, jusqu'au mois de janvier 61, en tout cas il a été révoqué au mois de septembre. Ce n'est qu'au mois de d'août 61 que nous avons pu avoir un gouvernement. Or, que n'a-t-on pas entendu, que n'a-t-on pas écrit en Belgique à l'époque sur l'incapacité des nègres à pouvoir former un gouvernement? Et voilà, patatras, 50 ans après, ce sont nos maîtres qui n'arrivent pas à former un gouvernement suite à des contradictions internes à la Belgique, alors que nous, si on a été privé de gouvernement, c'est parce qu'il y a eu des ingérences.
Alors, Anissé Mobé, alors on parle de la Belgique. Éclairez-nous sur ce qui se passe exactement en Belgique. Qu'est-ce qui se passe entre Flamands et Wallons francophones?
Pour le moment, je dirais que aux dernières élections auxquelles vous avez fait allusion, c'est le parti NVA, c'est-à-dire des nationalistes flamands, qui ont gagné ces élections. Or, la NVA est née d'une scission d'un autre parti flamand, la Volksunie, entre l'aile progressiste et l'aile, disons, conservatrice. Et ce sont ces conservateurs qui ont créé la NVA avec Bart De Weer, qui ne fait que accentuer, en tout cas amplifier les revendications, et notamment exiger la fédéralisation de l'emploi et du ministère de la Santé. Ce qui, pour le francophone, est inacceptable parce que ce serait toucher à un des piliers de la solidarité nationale. À ce moment-là, on va vers la séparation et donc l'indépendance de la France. Évidemment, la Flandre, compte tenu de l'essor économique qui est le sien actuellement, revendique cette autonomie, voire cette indépendance, parce qu'elle se rend compte qu'elle n'a plus besoin de l'économie qui, pendant très longtemps, était plutôt le pôle économique. Donc ça, c'est un, donc contradiction interne à la Belgique, mais je pense aussi que le modèle de l'État belge n'a pas pu résister à la mondialisation, et c'est assez paradoxal, parce que la Belgique, c'est le siège de l'Union européenne. Mmh. On n'arrive pas à comprendre comment, justement, ceux qui, la capitale, le pays où se trouve la capitale de l'Europe, c'est-à-dire vers l'Union européenne, n'arrive pas à faire l'union chez eux-mêmes. Quand on sait que d'autres pays européens, comme l'Espagne, connaissent aussi des particularités régionaux, locaux, mais qui n'ont pas mis en péril l'unité nationale. Mmh.
Dieudonné Kabongo, alors vous vivez en Belgique. Comment ça se passe au quotidien, justement, cette situation?
C'est qui est un peu paradoxal, n'est-ce pas? La Belgique, évidemment, qui qu'il y a tellement des entités, des compétences au niveau de toutes ces entités qui composent la Belgique, ben on a cette crise et au quotidien, on a l'impression de ne point s'en porter mal. C'est-à-dire, on a cette impression que les choses fonctionnent quand même. Et donc, c'est assez bizarre. Oui. Ça pousse peut-être à croire que cette Belgique est tellement bien organisée quelque part, on peut se passer d'un gouvernement pendant presque un an. Voilà. Donc ça, c'est du moins dans ce que on peut entendre au niveau de la population, sans aller dans des examens aussi profonds que faisait notre ami. Voilà.
Et comment réagit le roi Albert II?
Ben j'ai toujours l'impression qu'il est toujours entre ses valises, il va partir ou après il va rester, je sais pas très bien. Mais bon, vous savez, il y a eu un moment ici à la RTBF, donc à la radio-télévision belge, ils ont passé une information, c'était une fiction bien entendu, où il était question de cette partie flamande qui s'est séparée, qui prenait son indépendance, si je peux m'exprimer ainsi. Et il y a eu une panique au point où on a même pensé que le roi était en train de s'exiler quelque part. Il y a eu ce souci-là. Mais bon, je crois que le roi ne doit pas avoir la vie facile avec toutes ces démissions, tous ces gens qu'il doit nommer, parce que c'est le roi qui nomme le premier ministre pour le fédéral, et puis tous ces problèmes au niveau linguistique, tous ces problèmes au niveau des communes à faciliter. En fait, la Belgique est tellement compliquée qu'à un certain moment, je pense que Mitterrand disait, la personne qui pourra gérer cette Belgique-là, eh ben, c'est quelqu'un qui pourra gérer toutes les difficultés au monde.
Alors, c'est bien que ça vous fasse rire. Je vais passer la parole au professeur Yves Ekwueamaizo. Bonjour, professeur.
Bonjour.
Alors, sur ce cas atypique, belge, transposé en Afrique, ça ressemblerait à quoi?
Écoutez, ça existe et ça a existé en Afrique depuis très longtemps. Oui. Il s'agit simplement, comme vient de le dire votre interlocuteur, d'avoir une structure bien organisée qui, au fond, n'a pas nécessairement besoin de ceux qui sont en haut, comme on dit. Ça veut dire que la Belgique a pu fonctionner pratiquement sans des décisions stratégiques, à moins qu'elles aient été déjà organisées dans le temps. Et donc, ça me pose, moi, un problème de concept. Est-ce que c'est bien le concept de l'Union européenne, l'Union des Belges qu'il faut prendre? Et pour répondre à votre question, est-ce qu'il s'agit bien d'Union, Union africaine, Union des intégrations, etc.? Moi, je pense que c'est une erreur fondamentale sur le concept et qu'il faudrait peut-être revoir, face à la globalisation, mais aussi au concept africain, depuis l'origine, la notion d'interdépendance que j'ai développée plusieurs fois. Parce que si vous êtes interdépendant flamand et wallon, mais vous souhaitez non seulement obligé de travailler ensemble, mais c'est que vous devez solidarité mutuelle. C'est qu'il y a un autre concept qui permet de fonctionner ensemble. Et à ce moment-là, celui qui sort ou celle qui sort de vous est votre représentant. Auquel cas, il y aura moins de difficultés à choisir ce représentant qui doit nécessairement être alternatif ou alterné. Auquel cas, c'est faisable. Et ça existait en Afrique, ce principe. Reprenez les palabres africaines. Sur un plan plutôt économique, vous allez voir que ça fonctionnait sur cette base-là. Parce que c'est pas une histoire d'avoir celui qui gagne prend tout. C'est une histoire que celui qui gagne, la majorité donc, fait en sorte que la minorité puisse exister, voire cohabiter ensemble. Et en attendant, bien sûr, l'alternance dans le futur. Et donc je pense que c'est un très bon exemple pour l'Afrique, parce que l'Afrique devait revenir sur ses propres valeurs, parce que ces valeurs d'interdépendance africaine existaient depuis longtemps.
Restez avec nous, chers messieurs, avant de passer au deuxième sujet de ce JDA, notamment ce marché commun pour le continent. Eh bien, je vous propose d'écouter deux réactions d'auditeurs concernant Ouad et la Libye.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Oui, allô, bonjour les amis de JDA. Moi, j'appelle simplement pour pousser un petit coup de gueule sur une image que j'ai vue hier à la télévision, dans les journaux, voilà quoi, concernant M. Abdoulaye Ouad, soi-disant le président du Sénégal, qui parlait sur Mohamed Kadhafi. Moi, je vois que lui, il est mal placé pour demander à Kadhafi de quitter le pouvoir. Voilà quoi, lui-même déjà, est-ce qu'il est clean de ce qu'on reproche à Kadhafi. Peut-être que lui, ils sont pas venus chez lui parce qu'il n'a pas de pétrole, qu'il n'a pas plus de richesses que la Libye. Mais bon, le peuple attend, lui. Lui, sur qui on a mis toute la confiance, il a bousillé le Sénégal. Mais aujourd'hui, il se permet de se monter, d'aller à Benghazi, monter sur l'estrade et parler de quelqu'un qui ne fait pas bien de quitter le pouvoir. En tout cas, moi, ça m'écœure. De l'autre côté, j'aimerais lancer un coup, un message aux Africains et de leur dire que franchement, si nous allons laisser tous les jours les gens régler nos conflits, on n'en sortirait jamais et qu'on serait toujours de plus en plus dans les conflits. Et vous ne les voyez pas? On a connu tous les conflits, on a vu les conflits qui ont été résolus par l'ONU, toutes ces institutions internationales, on les a vus, mais jusqu'aujourd'hui, rien ne marche. Moi ici, moi j'ai 38 ans, je vais avoir bientôt 40 ans, et franchement, tout ce que moi j'ai vu jusqu'aujourd'hui, c'est pas bon quoi. Et donc, les Africains, soyez forts, unis, je parle surtout au peuple, soyez forts et unis, et dites-vous que tous les conflits qui vont être résolus par les institutions internationales seront boycottés systématiquement, afin que nous-mêmes, on puisse résoudre nos problèmes et trouver moyen de vivre tranquillement et décemment. Merci. Au revoir.
Allô, bonjour, ami Chidea. Bonjour, madame Chidea. J'appelle de Libreville, le Gabon. J'aimerais intervenir rapidement par rapport à la situation et du rapport du président Ouad. On espère qu'il a été envoyé par le président Sarkozy. Si nous analysons bien la situation, selon ses explications par rapport à la situation de Libye, c'est Sarkozy qui l'a envoyé. Sarkozy. Il a envoyé à cause de quoi? Parce que déjà, il y a eu une négociation après le G8 où Kadhafi présentait son fils à président Obama. À cause de quoi? Pour sa réinsertion au pouvoir sénégal. Il cherchait beaucoup de moyens. C'est la négociation qui est entre la France et le Sénégal de Ouad aujourd'hui. Nous avons compris. Moi, j'ai personnellement, j'ai honte à la place du président Ouad de réagir, de parler comme ça, colonel Kadhafi. C'est un soutien qu'il devait donner aux guides libyens et non supporter la France. Mais aujourd'hui, quand nous voyons la situation, tous nos chefs d'État africains sont vraiment, je ne sais pas quoi. Mais j'en ai fini pour le moment. Merci et bonne journée à vous.
0155 07 58 05 ou 00331 55 07 58 05 si vous appelez d'Afrique ou d'ailleurs.
Anissé Mobé, oui. Commentaire, qu'est-ce que vous répondez à ces auditeurs, les deux auditeurs?
Bon, mais d'abord, c'est bien, toujours bravo à Africa numéro 1 de laisser parler les auditeurs, parce que ça c'est l'Afrique profonde, hein, qu'elle soit dans la diaspora ou bien sur le continent. Alors par rapport à Kadhafi d'abord, parce qu'il faut distinguer le problème de la Libye, les aspirations du peuple libyen à se libérer d'un pouvoir manifestement autocratique, en tout cas un pouvoir, et surtout, Kadhafi est arrivé au pouvoir depuis 1969. Mais autre chose est les réactions des Occidentaux et la démarche du président sénégalais. D'abord, que fait la France et tous les autres pays de l'OTAN là-bas en Libye? C'est pas un problème, Kadhafi n'a pas attaqué, n'a pas mis en danger les Occidentaux pour l'attaquer. Kadhafi, il faut tout de même rappeler qu'il est arrivé au pouvoir en renversant un régime quasi féodal. Les Occidentaux s'en sont accommodés à l'époque, tout simplement aussi parce que d'abord il y avait le pétrole et surtout les bases militaires qui étaient en Libye. Ça c'est un, et puis deuxièmement, quant au président Ouad, moi j'aurais tant souhaité que l'inscrive sa démarche dans un cadre africain, parce qu'on se rend compte que dans toutes ces crises-là, aussi bien en Égypte, en Tunisie, en Libye et même en Côte d'Ivoire, l'Union africaine a été mise hors jeu. Pourquoi? Là, c'est une des vraies questions sur laquelle le président Ouad aurait dû mettre l'accent plutôt que de se présenter en donneur de leçons face à Kadhafi. Je ne suis pas du tout certain qu'il soit le mieux qualifié pour donner des leçons au président Kadhafi, même s'il faut le souligner, le peuple libyen a le droit de pouvoir exprimer ses aspirations pour aller accéder à la démocratie de telle sorte que les immenses ressources économiques libyennes soient gérées d'abord dans les intérêts des populations et non pas tout simplement pour le prestige d'un régime ou d'un leader politique.
Dieudonné Kabongo.
Je ferai une petite réflexion bien simple. Je pensais justement à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et j'étais en train de me dire, Sarkozy, il intervient en Côte d'Ivoire, soi-disant, il n'y a pas de gouvernement, il faut installer un gouvernement légitime. Et moi, je soupçonne que c'est parce qu'il y a du cacao, peut-être du pétrole. Mmh. Alors, je me disais, mais en Belgique, justement, puisque c'était le sujet, on n'a pas de gouvernement. et c'est le pays du chocolat dérivé du cacao. Mmh. Il pourrait bien venir bombarder de ce côté-là aussi. Oui, il faut pas être dupe en fait. Il faudrait que les Africains sachent quel est l'interlocuteur et qu'est-ce qu'il dit, que l'interlocuteur en face, qu'est-ce qu'il veut au juste.
Ben, je crois qu'ils savent, ils comprennent les enjeux, mais on a le sentiment qu'on est, on sait pas quoi faire finalement, on sait pas comment réagir, on sait pas comment lutter.
Mais on devrait quand même essayer de se parler en étant dans le problème lui-même, bien cerné pour trouver des solutions. Vous voyez par exemple ce qui se passe du côté de New York. Mm. Moi je trouve regrettable qu'aujourd'hui, après ce qui s'est passé avec M. DSK, bon, la tendance est de se dire que cette Afrique s'est toujours fait par les FMI, je n'ose pas dire le mot. Mm. Alors, maintenant, ce qui est regrettable, c'est d'entendre beaucoup d'Africains, surtout d'ailleurs du côté féminin, qui essayent d'accabler cette pauvre femme. Et ça, je trouve malheureux. Et donc, dans le cas, que ce soit la Côte d'Ivoire ou tout ce qui se passe du côté de M. Kadhafi, dont on demande un certain alibi, bon, ben, je fais un mauvais jeu de mots, c'est pas grave, mais ce que je veux dire, c'est que le peuple lui-même, le peuple est libyen et ivoirien, le peuple guinéen, congolais, tout ça, ben, on leur demande rien du tout. Et ce peuple-là n'a jamais donné son avis, qu'on ne lui demande jamais, parce qu'on pense toujours que ce sont les autres qui doivent réfléchir à sa place. Et ça, je trouve catastrophique.
Merci Anissé Mobé, merci Dieudonné Kabongo. À très bientôt dans le JDA sur Africa numéro 1.
Informé sans déformer, jugé sans passion, le journal des auditeurs pour faire bouger l'Afrique.
Professeur Ivekwe Amaizo, la création donc de cet immense marché commun allant du Cap jusqu'au Caire, couvrant toute la moitié orientale du continent. C'est un projet qui avait été approuvé lors d'une première conférence en octobre 2008 à Kampala. Et donc, des dirigeants de 26 pays d'Afrique de l'Est et du Sud ont entamé dimanche à Johannesburg les discussions en vue de créer cet immense marché commun. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, il va falloir affronter beaucoup de problèmes.
Oui, écoutez, je vais d'abord faire une précision. Oui. Le marché commun d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe, qu'on appelle en anglais COMESA, elle date de bien plus tôt que 2008. Oui. C'est pas quelque chose de récent. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un premier problème. Nous avons plusieurs sous-régions africaines, et quand vous regardez la composition, un certain nombre d'États se retrouvent dans deux ou plusieurs de ces zones avec les difficultés que vous connaissez. Il faut qu'ils payent leurs cotisations, ils ne le font pas, ils sont en retard, etc. Et des fois, sur des positions politiques, eh ben, ils ont des doubles positions. Donc ce point n'est encore pas réglé et doit être réglé. Maintenant, sur le marché commun lui-même, c'est quelque chose qui date depuis des années 63, en fait, au niveau sous-régional. Mais ce qu'il faut faire attention aujourd'hui, c'est que ce marché commun semble téléguidé par l'Organisation mondiale du commerce. Je m'explique. Il s'agit en fait d'aller vers une intégration mondiale, hein, une libéralisation mondiale des échanges. Mmh. Et comme apparemment l'OMC n'y arrive pas, puisque vous savez très bien qu'il n'y a aucune décision qui a été prise là-bas aujourd'hui sur ce plan-là, et qu'on demande toujours bien sûr aux pays africains d'y aller, l'Algérie est en train d'y réfléchir sérieusement et apparemment on va mettre quelques blocages, alors il s'agit de faire qu'il y ait une intégration d'abord au niveau sous-régional, le plus large possible, et demain le refaire au niveau mondial. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour l'Africain ? Peut-être une très bonne chose. Rappelons d'ailleurs qu'il faut soutenir l'intégration régionale en tant que telle, puisque la région dont vous parlez, COMESA, au marché commun Est et puis Austral, sincèrement, parmi toutes les sous-régions, en 2010, a le meilleur score, hein, 5,6% de croissance, et a été très résilient pendant la crise. Et elle a même un pronostic sur 6,2, 6,5 sur 2011-2012. Donc vraiment, il faut l'intégration. Maintenant, le problème est de savoir quelle intégration. Est-ce qu'il s'agit d'une intégration où on va mettre les chemins de fer, les organisations pour que les gens puissent venir prendre les matières premières, les enlever de l'Afrique et les Africains n'en profitent pas et ils n'ont pas d'emploi ? Ou s'agit-il d'une autre forme d'intégration où les routes sont faites de telle manière qu'on puisse faire en sorte que les récoltes, tout ce qui sort post-récolte ne soit pas perdu après 30 ou 40% aujourd'hui parce qu'on manque justement d'infrastructures, parce qu'on n'a pas la santé. C'est deux alternatives fondamentalement opposées aujourd'hui sur l'intégration régionale. Et là-dessus, les chefs d'État sont relativement silencieux ou sont dans le flou artistique, ce qui fait que vraiment on a un gros problème sur qu'est-ce qu'ils veulent réellement faire. Et quand vous savez qu'ils sont sous forme de dépendance vis-à-vis de l'extérieur, pour ne pas dire certain nombre de pays ex-colonies, vous comprenez que cette forme d'intégration, si elle n'est pas clarifiée, on a un problème. Je donne le dernier point. Oui. Ce qu'il faut dans cette intégration, c'est les échanges. Nous sommes les pays africains aujourd'hui autour de 11% à peu près d'échanges entre nous-mêmes, entre les Africains. Mais ce n'est pas possible. Il faut dépasser 30-40%. L'Union européenne est autour de 65% entre elles-mêmes, d'abord, avant de passer à l'exportation. Alors imaginez dans une compétition globale, la Chine, le Brésil, les pays émergents, etc., qui arrivent, et vous ouvrez votre marché dans le cadre de cette intégration. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez être envahi par l'ensemble des pays qui ont une meilleure productivité, qui ont un meilleur produit à vous offrir, et donc vous cassez votre développement industriel, vous cassez votre capacité productive, vous cassez la création d'emplois pour chacun des Africains, et du coup, il n'y aura pas de pouvoir d'achat. Et du coup, on va se focaliser sur l'exportation des matières premières non transformées, et du coup, à partir de là, ça va enrichir ce que vous connaissez déjà, et empêcher la classe moyenne africaine, voire la classe pauvre, de pouvoir s'en sortir.
Alors justement, dans cet immense marché, on voit qu'il y a la COMESA, on dit le COMESA, l'EAC, donc la Communauté d'Afrique de l'Est, et la SADC, l'Afrique centrale est absente, semble-t-il.
Écoutez, les trois que vous indiquez, tous les pays tentent, bon an, mal an, d'être dans le COMESA aussi. Quelques-uns sont absents. Mm. Mais ce qu'il faut dire, c'est que regardez quand même bien, à part Rwanda, Burundi, c'est quand même des pays plutôt anglophones. Mm. Et donc, de manière générale, tout le problème de la zone franc est écarté, tout le problème de l'interférence française est écarté, et cette zone-là semble aller beaucoup plus rapidement. Mm. Par comparaison, d'ailleurs, j'ai voulu travailler ça avant que pour votre émission, la zone franc elle-même, en termes de croissance, ne dépasse pas 4% en 2010, alors que la zone COMESA dont vous parlez est à 5,6. Donc cette zone anglophone fonctionne beaucoup mieux malgré tout. Maintenant, la réalité, c'est qu'il y a des gens qui sont très grands, l'Afrique du Sud par exemple, et d'autres qui le sont moins, Rwanda, Burundi. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce que les décisions sont les mêmes? Est-ce qu'il ne faudrait pas laisser tomber le côté, entre guillemets, politique pour arriver vers le volet économique? Je m'explique. Pourquoi n'avons-nous pas des cartels, par exemple, d'igname, de manioc? Pourquoi n'avons-nous pas des cartels de café-cacao, comme ont dit vos interlocuteurs tout à l'heure? Pourquoi, sur tous ces grands sujets agricoles, nous n'avons pas un groupe qui a une position commune,
alors, au moins il semblerait...
par région? Parce que c'est avec cela qu'on pourra dire, écoutez, on veut telle norme dans la pomme de terre, on veut telle norme dans l'igname, et à partir de ce moment-là, vous allez imposer le type de fabrication et de ce que nous allons manger en termes de consommation. Seulement, ce travail n'est pas fait. Et alors, au-delà de sa pensée à la monnaie, il faut avoir accédé au crédit. Oui. Et donc, comment voulez-vous travailler si l'essentiel de notre richesse, dans la zone franc en tout cas, est envoyé à Paris? Comment voulez-vous le faire si les taux de change ne sont pas harmonisés? Donc, il y a tout un travail de convergence assez concret qui doit se mettre en place. J'ai même réussi à trouver quelques dates pour vous, qui posent d'ailleurs un problème sur ces chefs d'État qui font beaucoup de bruit. Est-ce que vous savez, par exemple, que la zone de libre-échange, dont on est échangé librement dans la zone, c'est pas avant 2017? Que l'union douanière dans cette zone encore, c'est pas avant 2019? Et le marché commun lui-même dont on parle, c'est pas avant 2023, et certains parlent déjà de 2027. Oui. Donc vous voyez bien que on nous raconte quand même des histoires sur la réalité de ce marché commun. On en parle, c'est vrai, mais des efforts sont faits, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas. Ah, mais ça va tellement doucement. Le Fonds monétaire africain, qui est un élément fondamental, parce que si on a des difficultés dans la zone, il faut bien pouvoir aller discuter auprès d'une structure africaine pour pouvoir avoir des facilités de crédit. Écoutez, c'est en train de se mettre en place, et ça va se mettre en place au Cameroun assez rapidement. Malheureusement, les budgets pour pouvoir travailler là-dessus, on parlait de 100 milliards, c'est tombé à 50, c'est tombé à 20, mais qu'est-ce que vous le faites avec 20 milliards? On ne va pas faire grand-chose. Donc vous voyez qu'on revient sur le problème de fond, où ces chefs d'État parlent beaucoup, ils ont pourtant l'argent, c'est pas qu'il n'y en a pas en Afrique, surtout l'Afrique centrale par exemple, mais personne ne veut mettre la main dans la caisse. Revenons plus concrètement, les visas. Comment voulez-vous circuler dans la zone marché commun avec un visa unique? Aujourd'hui, personne ne le fait. Et alors, vous connaissez très bien les problèmes de visa dans l'ensemble des pays africains en général. Tout le monde en parle, mais en réalité, qui c'est qui voulait circuler? J'ai même proposé une fois de circuler un seul jour dans toute l'Afrique. Nous essayons de faire en sorte que ce soit un marché libre sur un jour. Mais les chefs d'État ont dit non. Donc, comment peut-on avancer si des gens même qui vous disent quelque chose au niveau des objectifs, et en les repoussant d'ailleurs dans le temps, ne bougent pas au niveau de l'opération?
Alors justement, on va se quitter sur cette note un peu positive, hein, même s'il faut la prendre avec des pincettes. Il semblerait que les dirigeants réunis actuellement à Johannesburg vont signer dimanche donc une feuille de route censée les diriger vers la fusion de leur petit marché domestique. Hein, j'ai bien dit petit marché domestique, mais ça, on pourra en reparler très bientôt. Yves Ekwueamaizo, je vous remercie infiniment de tous vos éclairages.
Merci.
Alors, j'ai encore quelques minutes pour les auditeurs. Une minute, peut-être Gérard, si vous m'entendez, Gérard.
Oui, je vous entends. Je vous écoute. Bon, je me dis, justement, le monsieur a rapidement parlé des problèmes concrets. Moi, oui. Je me dis, je souhaite surtout qu'il y ait suppression des petits étages jusqu'au consommateur. Parce que vous savez que si la distance est longue entre le producteur et le consommateur, ça va avoir un impact sur le prix. Mmh. Et moi, je me dis, regardez comment la configuration des pays africains, ils sont tellement côte à côte, mais que font nos présidents? Vous prenez le Bénin, le Togo, il faudrait un train quand même pour la libre circulation des marchandises. Mmh. Ne serait-ce qu'au Bénin déjà, il y a beaucoup de producteurs qui n'arrivent pas à cheminer leurs produits vers les grandes villes à faute de transport. Mmh. Donc les présidents n'arrivent même pas à résoudre ces petits problèmes et ils vont faire ça. Tant mieux, on peut acclamer, c'est une bonne idée, mais j'espère que ça va vraiment produire. Vous prenez le plus grand marché de l'Afrique occidentale qui est au Bénin, qu'on appelle Dantokba, c'est mal géré, ça dégage des milliards, le marché n'est même pas pavé, c'est sale par beaucoup d'endroits. Franchement, je me pose des questions.
Merci Gérard. Voilà, on veut des routes, messieurs les présidents africains, des routes entre les différents pays africains. Je vous dis au revoir, c'est la fin de ce JDA, mais ce n'est que partie remise. À demain.